Alors, bonsoir, bienvenue à cette conférence à la librairie Olivieri. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Gaétan Nadeau qui va nous faire une conférence-présentation autour d'un livre qu'il vient de publier qui s'appelle « Ingus du grand capital à l'économie sociale ». Un titre intéressant qui nous permet de revisiter, si on veut, l'histoire d'Ingus, donc autour de la communauté de Rosemont. Et un titre qui est intéressant parce que, d'une certaine façon, c'est peut-être un titre qui présage à l'avenue d'une nouvelle économie, d'une économie qui serait plus solidaire, moins prédatrice et qui pourrait peut-être faire une petite révolution. Mais la révolution, elle s'est jusqu'à un certain point passée sur ce territoire de Rosemont avec l'arrivée de cette grande compagnie qui a transformé, si on veut, tout cet espace. Pour nous donner aujourd'hui quelque chose de très novateur, intéressant. Alors, pour mieux comprendre cette histoire, Gaétan Nadeau va nous faire une présentation. Avant tout, je me présente, Jean-Marc Fontan, du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Je connais Gaétan depuis plusieurs années et aussi le site Ingus pour avoir travaillé à différents moments sur des projets de recherche qui étaient liés au développement du site. Alors, Gaétan va donc nous faire une présentation qui devrait durer environ une cinquantaine de minutes. On peut, évidemment, ici, si vous avez des questions, on peut poser des questions en cours de route ou faire des relances si besoin est. Gaétan, à toi la parole.
Merci, Jean-Marc. Bon, alors, on a fixé à 50 minutes, mais si je dépasse les bornes, vous m'arrêtez. Et j'avais choisi un certain nombre de... sélectionné un certain nombre de sujets parce que le bouquin aborde beaucoup d'éléments. La vie du quartier de Rosemont, bien sûr, la vie syndicale, comment s'est organisée la vie syndicale dans le milieu du ferroviaire, mais particulièrement dans l'association des machinistes, l'Association internationale des machinistes, un syndicat assez particulier qui dominait beaucoup à Ingus, donc une partie là-dessus. Les guerres 1914-18, 39-45 peuvent nous ouvrir des perspectives de toutes sortes concernant, entre autres, la vie syndicale, encore une fois, comment ça se passait, le type d'armement qui était produit, les conséquences sociales sur le quartier et les ouvriers du chantier comme tel. La localisation, les Ukrainiens, les Italiens, sujet très intéressant pour l'histoire du Québec aussi, ou la caisse d'économie. Alors, je vous signale que tous ces sujets-là sont abordés dans le bouquin parce qu'on n'aura pas l'occasion ce soir de tous les passer les uns après les autres. Mais après réflexion, je me suis dit que peut-être le fil conducteur à travers tout ça est celui qu'on a essayé d'établir. C'est de voir, dans le fond, comment il se fait qu'au Québec, en 1992, en fait, un organisme sans but lucratif, une entreprise d'économie sociale, a pu dire à une grande entreprise comme le Canadien Pacifique que dorénavant, il y avait au moins la moitié du terrain qu'elle possédait dans l'est de Montréal qui allait être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles elles étaient destinées. Et que cette idée même, un peu, qui aurait paru non seulement farfelue, mais révolutionnaire il y a à peine 30 ans, elle a été acceptée facilement. On s'en rend pas compte, mais il y a eu un saut qualitatif important au niveau des idéologies pour que ça soit acceptable pour la population et les élus, et même les entreprises privées comme le CP, qui s'est plié à cette demande-là. Pas de gaieté de cœur, mais ils l'ont fait. Alors, si vous le permettez, ce soir, on va faire la trajectoire de 1900 à peu près jusqu'à l'arrivée des ateliers Ingus, là, de la Société de développement Ingus, donc 1990 et 2000, pour voir qu'est-ce qui a pu se passer dans l'histoire du Québec qui explique ce transfert d'idéologie. Alors, retournons dans les années 1900. On a toujours l'impression au Québec qu'il existait une espèce de noirceur intellectuelle, idéologique, que c'était foncièrement conservateur et qu'il y avait peu d'autres alternatives sur le marché. Alors que c'est plutôt l'inverse, c'était extrêmement effervescent à cette époque-là. Les libéraux radicaux sont extrêmement dynamiques. D'ailleurs, Laurier était lui-même, au début de sa carrière, faisait partie de cet équipage des libéraux radicaux qui amenait dans le discours politique au Québec une série d'idées très novatrices qui, pour plusieurs, ne sont même pas encore appliquées. Alors, à l'époque, on parlait déjà de santé et sécurité au travail, des assurances pour la sécurité au travail, les fonds de pension publics, les soins de santé gratuits, l'éducation gratuite, la gestion des manuels scolaires, qui était vraiment un problème à l'époque, qui était le suivant, c'est que chaque commission scolaire avait son territoire, qui était généralement très petit, qui était contrôlé par une communauté religieuse, donc diverses communautés religieuses, et chaque communauté avait son éditeur de livres d'école. Et donc, comme les gens déménageaient quand même relativement souvent, qu'il y avait peu de moyens chez les ouvriers, c'était vraiment un problème que de devoir acheter à chaque fois que les 4, 5, 6 ou 12 enfants changeaient d'école, des nouveaux bouquins. Alors, ça a été des luttes que les libéraux radicaux ont menées. Donc, on pense à Godefroy Langlois à l'époque, Tédé Bouchard, député de Saint-Hyacinthe. Alors, ces gens-là occupaient un large espace et on doit dire que dans le cadre d'Angus, par exemple, on va voir même un député ouvrier issu des rangs d'Angus, un peintre lettreur, M. Laurendeau, Adélard Laurendeau, qui va être député ouvrier en 1919 pour le comté de Rosemont, à Québec. Il va avoir un seul mandat. Mais il y a un bouillonnement puis il y a un dynamisme très important. Une chose qu'on doit aussi garder en tête, en 1904, quand les ateliers ouvrent, c'est essentiellement du personnel britannique qui est là. Les Écossais, les Britanniques, ce sont des gens qui sont de citoyenneté britannique et qui sont au Québec pour les travaux qu'on trouve aux ateliers Angus ou dans le domaine ferroviaire, et uniquement pour cette raison-là. Ces gens-là, ils sont beaucoup influencés par le Parti travailliste. On oublie ça, là, mais jusqu'en 1922, au sein des ateliers Angus, il y a deux syndicats, il y a des syndicats américains, on y reviendra tantôt, mais il y a aussi des syndicats britanniques qui ont des membres aux ateliers Angus. Et en 1908, une belle attestation de ce réflexe qu'ils ont vers la politique britannique. En 1908, au Monument national à Montréal, pendant la grève à la Grande Assemblée publique, c'est le chef du Parti travailliste britannique qui est l'orateur invité. Alors, ça donne une idée des liens, disons, idéologiques ou sociaux que ces gens-là entretiennent. Alors, c'est pas étonnant qu'en 1914, quand la guerre est déclarée, on voit les gens partir par centaines des Italiens Angus pour aller combattre. En fait, ils sont conscrits, tout simplement, ce sont des Britanniques. Ils sont rappelés sous le drapeau. Ils s'en vont donc faire la guerre. Petit aparté là-dessus, la famille Shaughnessy, qui était le grand patron des ateliers Angus, pas des ateliers Angus, mais du Canadien Pacifique, le président, ses deux fils avaient été recrutés par l'armée canadienne. Ils avaient été nommés officiers. À l'époque, il y avait deux façons de devenir officier, soit papa, soit l'écho. Et ils avaient pour mandat de former des troupes, des régiments. Et eux allaient recruter des Irlandais aux ateliers Angus. Alors, ils ont formé le 60e, qui a vraiment combattu, et le 199e, qui a une histoire assez pathético-drôle. On peut le voir dans le bouquin. On a même retrouvé un des posters de recrutement qu'ils avaient fait. Et ils avaient comme motto, eux, c'était « Quis separabit », donc « Qui pourra nous séparer ?» Et ils avaient mis dans la même troupe des Irlandais catholiques et protestants, et ils ont fait la drill, comme on dit, l'exercice. Les rapports internes qu'on a vus après dans les archives plus récemment indiquent que c'était vraiment pas un succès, là. Mais c'est pas grave, on les a envoyés pareil parce qu'ils ont fait la tournée de l'Irlande. Et ce que le gouvernement britannique voulait montrer, c'est que protestants et catholiques pouvaient s'allier pour défendre l'Empire sans problème. Alors, ils ont fait la visite de tous les villages d'Irlande. Et après ça, la troupe a été tout simplement scindée. On les a envoyés dans différents régiments. Autre fait historique intéressant à retenir, pour la guerre 14-18, il y avait dans l'intendance de l'armée une comptabilité qui se faisait sur les décès. Alors, comme on ne voulait pas voir disparaître une province au complet, exemple, des troupes de Terre-Neuve à Vimy au complet, on s'arrangeait pour qu'il y ait un petit peu d'Irlandais, un petit peu de Québécois, un petit peu de... On s'organisait en cas d'attaque pour ne pas faire disparaître une province au complet. Alors, il y avait cette comptabilité-là qui se tenait. Mais là, je m'éloigne de mon sujet. Et je reviens à mes libéraux radicaux. Alors, ils sont donc extrêmement dynamiques à Montréal et ils sont souvent, évidemment, contraints par l'Église catholique à trouver des refuges parce que c'est pas facile. L'Église catholique, dans ces années-là, il y a deux expressions qui sont d'usage courant. Des épithètes, des injures qu'on utilise. Alors, on peut se faire traiter de guelfes ou de gibelins, qui sont des très vieux mots qui viennent du 14e siècle. Et les guelfes sont les gens qui défendent l'autorité papale en toutes circonstances et sur tous les sujets. Ce que le pape dit, c'est le cas de le dire, c'est sacré. Les gibelins, ben, ce sont à l'époque les socialistes, les francs-maçons, et là-dedans, évidemment, derrière les francs-maçons, pour l'Église catholique, ce sont les juifs. Alors, la fameuse question du peuple juif, ça ressort dans toute la littérature, et vous allez trouver dans la bibliothèque, les bonnes bibliothèques du Québec, à l'Université Laval et probablement à l'Université de Montréal, une revue qui s'appelle « La revue des sociétés secrètes, 1900-1912 ». Et là-dedans, vous allez voir qu'il y avait un nommé Benigni, qui était un évêque, qui avait été appointé par le pape pour justement faire du renseignement et savoir où on était, sur la grandeur de la planète, les francs-maçons et les juifs. Alors, mais c'est quand même étonnant là, que de Rome, on reçoive après ça dans des revues qui ont été traduites en français, la revue des sociétés secrètes, à Montréal, mais partout sur la planète, des petits textes où on explique que M. Blumenthal a été élu à Montréal, un juif de plus qui a pris le contrôle à l'hôtel de ville. Et là, je vous fais grâce des commentaires qu'on fait sur les juifs. Alors, il suivait à la trace comme ça les nominations. Et un bon matin, on voit apparaître le nombre total, d'après eux, de gens qui sont membres de loges de francs-maçons au Québec et le nombre de loges totales. Alors, il y avait vraiment des gens qui faisaient des listes, là, puis qui adressaient ça au Saint-Siège, et après ça, on redistribuait pour inviter, finalement, les catholiques à cerner ces gens-là, puis leur interdire de se livrer à des méchancetés contre l'Église catholique. Alors, c'était d'abord très bien organisé. Ces gens-là se surveillaient mutuellement, constamment. Alors, pour survivre dans un climat comme ça, ça prenait un endroit où l'Église catholique n'était pas en mesure de vous empêcher de vous livrer à vos actions. Alors, les syndicats internationaux avaient tout ce qu'il fallait pour survivre. Les patrons étaient à Atlanta ou à Philadelphie. Ils ne parlaient pas français. Comme je vous ai dit tantôt, il y en avait beaucoup qui étaient britanniques, qui s'y entendaient assez peu. De toute façon, ils n'étaient pas catholiques. Les syndicats catholiques, à l'époque, acceptaient comme membres des protestants ou des anglicans, mais ils n'avaient pas droit de vote. Alors, ça limitait un peu les expectatives pour les syndicats, donc pas de possibilité pour eux d'arriver à Angus, même si les ouvriers d'Angus n'étaient pas très militants et même ignorants de ce qui se passait sur la scène politique francophone et sociale, la masse de leurs cotisations au sein du Congrès des métiers et du travail de Montréal, là où se réunissaient l'ensemble des syndicats internationaux américains et les francs-maçons, les libéraux radicaux, là, ils pouvaient mener leur bataille de cet endroit-là. À l'époque, on doit beaucoup aux médecins, parce que la médecine est la science qui avance le plus vite au début du siècle, et ça va poser un problème très particulier à l'Église catholique, c'est celle de la justice sociale versus la justice divine. Je vais prendre le simple cas des filles mères. L'Église catholique estimait que s'il n'y avait pas quelqu'un au pied du lit pour accueillir l'enfant pour venger le péché qui a été commis, ben où allons-nous? Alors que la justice sociale ne s'enfargeait pas dans ce genre de considération. Alors, il y avait les médecins, francs-maçons, en tout cas au moins libéraux radicaux, ont fait beaucoup de travail, et même pendant la guerre 14-18, on va les voir partir sur les champs de bataille. Vous avez des hôpitaux de campagne gérés par des francs-maçons, et pas très loin, les catholiques arrivent pour installer leurs tentes et leurs médecins pour essayer de sauver les armes que les francs-maçons pourraient peut-être venir qu'à capturer. Alors, on a ça en 1904 à Montréal, deux blocs. Évidemment, les francs-maçons sont minoritaires, là, on peut pas dire que c'est une force très importante, équivalente à celle de l'Église, mais en fait, on a ces deux forces-là. Ils sont extrêmement dynamiques, ils ont des journaux, ils font beaucoup de publications, des manifestations. Non, vraiment, ils ont le vent dans les voiles, et c'est très diversifié, les discours. Albert Saint-Martin, qui se trouve à être à l'extrême gauche, les libéraux radicaux qui peuvent se définir comme socialistes, mais qui ne remettent pas en cause le capital. Enfin, ils ont beaucoup plus de distinctions dans le discours politique qu'on peut même trouver aujourd'hui sur le marché québécois de la politique. Il va se passer un événement important qui va changer les forces. 1910, le congrès œcuménique à Montréal. Donc, toute l'Église catholique se réunit à Montréal pour un grand congrès. Et c'est ce moment-là que Mgr Bruchesi, dont la devise est « crème et d'art », alors ça donne une idée du personnage, décide de régler leur compte aux francs-maçons. Ça se passe de la façon suivante. Ils ont une réunion, un lieu de réunion au-dessus du journal La Patrie. Et ils envoient des gens faire un cambriolage et ils sortent la liste des membres des francs-maçons. Dans cette liste-là, ils vont trouver le chef de la police, pas le chef de police, mais un détective de la police et le médecin-chef de la ville de Montréal, entre autres. Et ils vont envoyer ça au maire Guérin. Le maire Guérin, qui est un Irlandais catholique, qui est aussi président de l'Association de défense de l'Irlande catholique, un organisme, en tout cas, qui est international, en fait, et qui fait la promotion, évidemment, du nationalisme irlandais. Et d'ailleurs, anecdote, petit aparté, la rue Guildford actuelle, qui est à côté des ateliers Ingus, là, elle a porté le nom de rue Paul Kroger de 1911 à 1931. Paul Kroger était le leader des forces boers, ce qui veut dire que le Canada était engagé en Afrique du Sud en 1904 contre les forces boers, au même titre que nous le sommes aujourd'hui en Afghanistan. Et il y a un maire d'une ville canadienne qui a eu le culot d'aller mettre sur un coin de rue, comme nom de rue, Paul Kroger. C'est le maire Guérin, qui est un anti-impérialiste patenté, qui a été candidat aux élections de 1917 anticonscriptionniste. Alors, on voit le personnage. Alors, il a des opinions très marquées. Alors, lui, il organise en 1910 un procès, mais un procès qui a lieu à l'Hôtel de Ville. Et l'idée, c'est que l'Église prétend que les papiers qu'ils ont saisis chez les francs-maçons indiquent qu'ils avaient mis sur pied un complot qui consistait à amener les curés qui venaient pour le congrès œcuménique à la recherche d'un lieu d'hébergement. Ils leur offraient des endroits et les amenaient dans un lieu de débauche pour mieux les photographier et mettre dans les journaux, n'est-ce pas, les mauvais côtés de l'Église catholique et les pratiques. Alors, ils sont partis avec cette idée-là qu'il y avait un complot et ont fait défiler devant les conseillers municipaux des francs-maçons, les gens qui sont sur la liste. On leur demande s'ils croient en Dieu, s'ils croient au diable, des questions comme ça. La Cour supérieure du Québec va mettre fin assez rapidement à ce procès un peu ridicule. Tout ça pour dire que déjà Montréal, en ces années-là, avait son lot de choses un peu loufoques. Oui, bizarres et loufoques. Mais bon, il y a cet événement-là qui se passe pour les francs-maçons qui va être terrible pour eux parce que après ça, ils vont être exclus, relégués, ils vont perdre leurs emplois. Beaucoup vont être forcés à l'exil en Belgique ou en France. Et disons que ça va être un coup à peu près mortel pour eux, là. Mais il va se passer autre chose la même fin de semaine du congrès, c'est que l'Église catholique envoie l'évêque de Westminster en Angleterre pour annoncer aux catholiques du Québec francophones qu'ils ne seront plus les porteurs messianiques du discours de l'Église catholique pour l'Amérique. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à 1910, la théorie ou la doctrine était à l'effet que les francophones étant... je rappelle là, qu'en 1890, c'est majoritairement francophone au Manitoba, entre autres, là. Et dans les provinces de l'Ouest, il n'y a pas grand monde. Alors, jusqu'à ce que le train arrive en 1885, c'est relativement stable comme population. À partir de 1885, là, il y a une immigration massive et les chiffres vont changer. Et c'est ça qui va entraîner un changement de position du Vatican. Dans l'historiographie québécoise, on présente toujours ça comme la grande trahison des clercs vis-à-vis les pauvres petits catholiques canadiens-français. Je dirais que c'est une vision un peu ethnocentrique des choses. Nos recherches indiquent plutôt que la politique qui a été appliquée au Québec par le Vatican, il y a toujours Mgr Benigni qui est derrière ça, là, est exactement la même qui a été utilisée pour la Pologne et pour les mêmes raisons. La Pologne est un pays extrêmement catholique où le nationalisme se fond avec le catholicisme, comme au Québec. En Pologne, comme au Québec, se pose le même problème, c'est que la démographie ne permet pas de penser que les Polonais, par exemple, vont être capables d'empêcher la russification. Tandis qu'ici, les Ukrainiens, ou les Rutènes, comme on les appelait à l'époque, qui ont immigré au Québec, au Canada, et qui ont été envoyés dans l'Ouest canadien, ont entre les mains la balance du pouvoir religieux. Étonnamment, parce qu'on connaît peu ces choses-là, et à l'époque, il y avait beaucoup de confusion, ils sont catholiques. Ils pratiquent les rites uniates, avec des particularités qui les rendent un peu bizarres et suspects, à savoir, exemple, que leurs prêtres peuvent se marier. Alors, on voit d'ici des problèmes pour l'Église catholique. Néanmoins, comme ils représentaient maintenant la balance du pouvoir, en 1909, il y a une rencontre avec les autorités uniates à Québec, et on a préparé le terrain pour transférer, disons, la responsabilité de la propagation de l'Église catholique vers l'idiome anglais plutôt que français. Évidemment, il y a les Irlandais aussi, qui catholiques, sont très nombreux dans les États de l'Est américain. On se souvient évidemment toutes les... il y a eu d'ailleurs un film là-dessus, « Les tyrans du pouvoir », je crois. Toutes les difficultés des nominations d'évêques anglophones catholiques pour gérer des provinces, des paroisses francophones catholiques aux États-Unis. Alors, dans l'Ouest canadien, c'est le même phénomène. Donc, en 1910, les Gros et compagnie, Henri Bourassa et tout ça, Henri Bourassa, d'ailleurs, le soir du congrès œcuménique, prend la parole après l'évêque de Westminster, et c'est passé à l'histoire, ça, ce discours-là enflammé. Et si vous allez sur le site de l'archevêché de Montréal, vous allez voir, il y a encore une page où l'Église catholique s'excuse en 2009 de ce qui s'est produit en 1910. Mais ça va être la fin de cette idée d'un citoyen, du Canadien français qui va être le porteur de la foi catholique à la grandeur et qui peut donc rester dans le monde du spirituel en évitant le temporel autant que possible. Ça, il y a une brisure qui se fait là, et le nationalisme va changer de terrain. Il va devenir territorial, mais à l'exclusion, hein, avec le Grou. C'est un territoire où il n'y aurait que des francophones catholiques, à l'exclusion de l'anglophone, ou tout au moins du protestant, qu'on appelait à l'époque, on mélangeait anglicain et protestant allègrement, là, mais disons, on utilise généralement le terme à l'époque protestant, mais on inclut les anglicans. Et les Juifs, exclure les Juifs aussi. Alors, un bel exemple de ça, dans Rosemont, même quelques années plus tard, ça va être la Cité Jardin. La Cité Jardin est une coopérative qui a été formée, en fait, par l'Église catholique, des curés. C'est une paroisse, on veut faire une petite paroisse, un petit quartier, qui est destiné, en fait, aux travailleurs, mais dans le fond, les édifices vont être trop chers pour les travailleurs, ça va être plutôt des professionnels qui vont prendre ça. D'ailleurs, le maire Drapeau va habiter là, genre comptable, là, avocat, notaire. Et l'idée là-dedans, c'est de mettre, évidemment, l'Église catholique, l'école catholique, quelques coopératives, mais évidemment, il n'est pas question que des Juifs ou des anglophones aillent habiter là. Ça, c'est probablement le dernier sursaut de cette idéologie plutôt à droite, là, dans Rosemont. On va le voir là, dans Cité-Jardin. Il y a vraiment un caractère très, très politique et religieux dans ce projet-là. Alors donc... Groux et compagnie vont devoir rectifier le tir. Ils vont plutôt aller chercher dans la pensée de Morat, qui est un auteur français, un philosophe français, royaliste, Rumilly et de cette équipe-là, royaliste antidémocratique, pas tellement là, qui veulent attaquer les régimes démocratiques, mais ils estiment que la démocratie est porteuse d'une série de problèmes de déliquescence de la société, donc la royauté offre beaucoup plus de qualité comme régime politique que la démocratie comme telle ou le régime parlementaire. Ben, évidemment, c'est français. Mais Morat va connaître beaucoup de succès en Belgique, en Amérique latine, passablement. Et au Québec, il va y avoir de solides assises, entre autres le maire Drapeau. Le maire Drapeau ne se cachera jamais du fait que son auteur préféré reste Morat comme ligne politique. Mais Drapeau, on doit quand même dire, à la décharge de l'homme, qu'il n'a jamais laissé dicter ses politiques par ses opinions politiques de ce type-là. Sa pratique quotidienne n'était pas dictée par ce genre de politique-là. Alors donc, il y a ce changement-là qui va se faire de 1910 à 1926. En 1926, il va se passer un autre événement, c'est que l'abbé Groux édite un journal qui s'appelle l'Action française, qui en fait porte le même nom qu'un journal édité par Morat. Et en 1926, le pape va interdire la publication de l'Action française. Alors ils vont devoir encore une fois changer d'option. Ils vont devenir encore plus... ethnocentrique, vraiment plus, territorial. Donc, on va apparaître la Laurentie là, dans le discours des nationalistes québécois. Et on se distancie de plus en plus de la religion catholique comme telle, parce que le pape n'est pas très favorable à ça. Je reviens un petit peu en arrière aussi, un élément que j'ai oublié d'indiquer, c'est qu'en 1911, le pape en a, mais vraiment, là, ça va plus avec les francs-maçons, là, il trouve que c'est vraiment devenu inquiétant. Alors, il ordonne à tous les curés, les prêtres dans le monde anti-catholique de signer une déclaration, un serment anti-moderniste qu'on appelle, qui dénonce le socialisme, le libéralisme, le matérialisme. Alors, il y a une liste comme ça de choses en liste. Et à partir de 1911, chaque curé doit faire à chaque année un rapport, ce qui devait probablement alimenter les dossiers de Mgr Benigni, un rapport dans chaque paroisse. Puis on a ceux de Rosemont, du début de 1904 jusqu'en 1926, où les archives sont disponibles, où le curé, M. Brien, va indiquer combien il y a de juifs dans sa paroisse. Ça a pris du temps avant qu'il y en ait. Et à un moment donné, il a marqué zéro et à côté, Deo Gracias. L'année suivante, il y en avait 12. Et deux choses, et aussi les francs-maçons, il faut qu'ils calculent les francs-maçons. Et les francs-maçons aussi, il faut distinguer. Là. On connaît les francs-maçons, ils ont un local là, sur Sherbrooke, un édifice assez intéressant. Ça, ce sont des francs-maçons anglophones de la tradition qui n'ont rien à voir avec les francs-maçons radicaux là, dont on parle, francophones. Les anglophones, c'est plus les Shriners là, qui ramassent des sous pour l'hôpital pour enfants. Ils ne sont pas très sujets à être jugés comme suspects, ceux-là. Alors, il faut bien les distinguer. On les retrouve aux ateliers Angus, là, les francs-maçons anglophones là, dans les cadres. Bien sûr, c'est des petites coteries là, qui se laissent des avantages pour des promotions, tout ça, là, mais ils font pas vraiment de la politique au sens où le font les libéraux radicaux et les francs-maçons francophones associés à la loge du Grand Orient. Alors, où en étais-je, docteur? Revenons en 1906 avec un personnage, 1926, pardon, il y a un personnage qui s'appelle André Laurendeau, qui est un bel exemple qui va nous permettre de voir comment va se développer, comment un intellectuel comme lui va changer ses positions idéologiques en à peu près 20 ans, 20, 30 ans, qui va nous mener vers un projet comme celui d'Angus. En 1929, Laurendeau est jeune, évidemment, et avec un groupe de copains, ils éditent une revue qui s'appelle La Relève. Et là-dedans, le point de vue qui est mis de l'avant, c'est celui du retour au Moyen-Âge. Évidemment, pas du point de vue physique, là, mais l'idée que si tu confies ta vie à des objectifs d'ordre spirituel pour être en accord avec Dieu... normalement, on devrait éviter, exemple, les débauches qu'on a connues en 1929 avec la crise. Donc, moins de matérialisme. C'est conservateur, mais comment je pourrais dire, c'est pas vraiment négatif. Ces gens-là ont des idées, ils recherchent eux aussi le bonheur pour le peuple et ils pensent que le bonheur est plus facilement accessible dans le spirituel que dans le matériel. Et ils vont défendre cette idée-là, et longtemps, parce que même Doris Lussier, le comédien, en 1940-41, édite dans une revue qui s'appelle La Droite des textes où encore on fait appel au Moyen-Âge, on rappelle que ça c'était la vraie France, que là on vivait vraiment en vertu de principes vertueux, puis qu'aujourd'hui c'est déplorable ce qui se passe avec le matérialisme ambiant. Alors donc on a ce Laurendeau qui tient ce discours-là en 1929. En 1936, il va comme journaliste en France et il va suivre la guerre d'Espagne. En France, il va pouvoir rencontrer beaucoup d'intellectuels. Il se rend compte à quel point, à droite comme à gauche, l'échiquier est extrêmement vaste et il y a beaucoup de subtilité dans les idéologies qu'on présente. Et il va commencer à faire preuve d'une rigueur importante. Le deuxième, parce qu'il va y en avoir un troisième, André Laurendeau naît. Il prend ses distances, il devient beaucoup plus subtil là-dessus. Il va pas à gauche, c'est sûr, mais au moins, il est capable de dialoguer puis d'entretenir un discours là-dessus. Il abandonne l'idée du retour au Moyen-Âge. Il va travailler au Devoir pendant un certain temps. Et après ça, on va voir revenir Laurendeau pendant la commission Laurendeau-Danton. Et là, c'est quand même étonnant parce que Laurendeau, lui, ça va être le spécialiste de l'inventaire de ce qui manque aux francophones pour rejoindre les anglophones. Alors, avec M. Daphny à l'université, il était l'Université de Montréal à l'époque, sociologue, ils se mettent à comptabiliser les différences de salaire, de revenus chez les francophones. Ils font des sondages pour savoir quelles sont les valeurs que les francophones ont versus celles des anglophones, pourquoi ils ne réussissent pas à percer, entre autres, dans le domaine du génie, autrement que dans le secteur public, jamais dans le secteur privé. Alors, il y a une comptabilité terrible qui va se faire pendant 4-5 ans. Et on voit Laurendeau, qui, en 1929, prône la spiritualité à tout craint, le retour au Moyen-Âge, se mettent à faire une comptabilité extrêmement matérielle et à revendiquer pour les Québécois francophones les mêmes possibilités d'accès aux richesses que chez les anglophones. Vous voyez, le transfert qui s'est fait important, qui est lié évidemment à la guerre 39-45. Là. Après la guerre 45, de 39-45, il y a énormément de capitaux de disponibles. L'industrie a connu un bond important. Les francophones ont commencé à voir qu'il y avait des biens matériels intéressants qu'on pouvait acheter. Ils sont beaucoup endettés pour le faire d'ailleurs. Ça va nous donner l'occasion de parler de la caisse d'économie Angus qui a été fondée à ce moment-là. Et c'est cet accès aux capitaux, aux biens matériels en 1945 qui vont débloquer, en tout cas chez les francophones, puis on le voit très bien à l'intérieur des ateliers Angus, là, il y a une espèce de frénésie de consommation qui s'installe. Automobile privée un petit peu plus tard, mais à l'époque, les gens s'endettaient pour des réfrigérateurs et puis des laveuses. C'était ça qui était le plus gros type. Et ça donnait des problèmes assez particuliers aux ateliers Angus parce que les gens, pour acquérir ça, les caisses populaires ne prêtaient pas. La théorie, c'était que les gens devaient d'abord épargner avant de dépenser. Alors, emprunter pour acheter un bien, c'était inadmissible. Alors, ils devaient faire affaire avec des compagnies comme Household Finance ou, pire, des Shylock. Et entre Household Finance et Shylock, c'est vraiment une question de nuance. Et ils étaient rapidement endettés, ce qui les obligeait à avoir 2-3 emplois ou à se livrer à des commerces illicites à l'intérieur des usines. Des commentaires que j'ai obtenus des gens qui ont travaillé là, il y avait même des distilleries à l'intérieur des usines. Les gens réparaient des wagons de grains qui venaient de l'Ouest canadien. Il restait des grains là-dedans. Alors, ils étaient quand même bons bricoleurs. Alors, ils se faisaient des distilleries. Ils vendaient la boisson. Les patrons étaient de mine, de mèche avec eux, les cadres. Et les policiers qui avaient là n'ont jamais réussi de toute façon à arrêter quoi que ce soit, là, malgré leur très lourd armement dans les années 20. Ça a vite donné beaucoup de problèmes de gestion interne dans l'usine même. Et je parlais avec des militants de gauche là, qui ont formé la Caisse d'économie Angus. Après la guerre de 1945, la corruption avait atteint des sommets incroyables au sein du syndicat. Par exemple, ceux qui avaient été au front qui revenaient se faisaient dire par les dirigeants syndicaux que c'est bien malheureux que la guerre soit terminée. C'était donc payant. L'overtime, les conditions de travail étaient bonnes aussi, puis il y avait beaucoup de monde qui travaillait. Alors, ça en rébutait quelques-uns, et ça a un effet de gangrène, là. À la fois, cette idée que la guerre, c'est payant, les capitaux disponibles, l'achat, l'endettement, la difficulté de maintenir l'ordre dans la sein de l'usine. Bref, le contrôle de l'usine était passé aux mains d'une espèce de petite mafia locale. Et autant l'employeur s'en alertait que les militants plus de gauche qui disaient « ça n'a pas de bon sens, on n'a plus de syndicats, on n'a que des petits mafieux associés au Parti libéral provincial, alors il faut faire quelque chose ». Alors, ils se sont mis à 12. Ils ont mis chacun 5 $ dans le pot. Et avec 60 $, ils peuvent obtenir une charte pour une caisse d'économie. Ils ont créé la caisse d'économie à ce moment-là. Et les principes qu'ils mettaient de l'avant, c'est qu'il fallait, quand tu recevais ta paye, que tu l'échanges là, que tu mettes 5 $ en économie plus les sous là, qui restaient sur ta paye. Si tu avais 58 et 42, les 42 cents devaient aller en économie. Ils ont donc forcé un peu l'économie. Ils ont aussi prêté aux gens des taux acceptables. Et c'est probablement la caisse d'économie qui a ramené l'ordre, un peu la discipline à l'intérieur de l'usine. Bon, alors, revenons à nos, au processus idéologique, parce qu'on va arriver à Angus, nouveau format là, 2000, Société de développement Angus. Alors, comme je vous disais tantôt, les nationalistes francophones vont être un petit peu en manque. Ils vont avoir des difficultés à se replacer dans leur discours. On voit dans les années 45 une espèce de compétition entre le spirituel et le matériel. Et nettement, le matériel va gagner rapidement. Après, de toute façon, Vatican II, on voit tout de suite le désastre qui se produit dans la pratique religieuse. Et en 1930-40, il y a un individu qui apparaît au Québec. Il n'est pas le seul porteur, là, mais il est très indicatif d'une nouvelle lignée. C'est Jean-Charles Harvey, un journaliste qui est un libéral, mais ce qu'on appelle les libéraux individualistes, pas un libéral radical, qui porte le libéralisme de l'individu. Et lui, il va éditer un journal qui s'appelle Le Jour. Il va propager ce genre d'idées-là qui incite les Québécois à s'ouvrir au monde, à aller vers le matérialisme, bien sûr, à s'assumer, à plus d'éducation. Bref, il va tenir son fort. Et anecdote d'ailleurs, 1941, le premier territoire français occupé qui va être libéré, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Et l'invasion va se préparer dans les bureaux du journal Le Jour avec le général Muselier. Il y avait un journaliste du jour au débarquement qui s'est fait avec 4 gars, 2 fusils. Bon, c'était quand même pas un gros débarquement. Ils ont dû sortir après à la demande du gouvernement canadien, soit dit en passant. Alors, on voit quand même le type d'homme qu'on a là. Alors, lui, il va tenir son discours. Il va dénoncer beaucoup ce qu'ils appelaient à l'époque la patente, là. Donc, un supposé groupe de fonctionnaires fédéraux qui agissaient en sous-main pour essayer de trouver des emplois des francophones, à faire la promotion des francophones au sein des institutions fédérales. Et il impute, lui, à cette organisation-là, le manque de pugnacité du gouvernement canadien dans la guerre 39-45. Alors donc, il va dénoncer ces gens-là. Bien sûr, il est, lui, un peu avant la Révolution tranquille, mais il sème. Hein. On voit dans ses textes-là, tout ce qui s'en vient est là déjà parsemé là-dedans. Ils sont pourtant des ennemis du nationalisme, disons, plus tendance catholique. Là. Néanmoins, ils vont coexister pendant un certain temps. Ce qui va se passer au début des années 70, là, quand les Québécois vont vraiment avoir adopté, disons, une vision matérialiste des choses, que le libéralisme individuel va prendre toujours de plus en plus de place, au sein du Parti québécois, il va y avoir une alliance entre des nationalistes plus de droite, les derniers restes là, de l'époque 1920, 1930, 1940, avec des libéraux plus individualistes. Et c'est pas pour rien, et c'était clairement indiqué comme ça, que le premier journal nationaliste quotidien qui va être édité au Québec va s'appeler Le Jour. C'est pour rendre hommage à Jean-Charles Harvey. Alors là, il y a cette jonction gagnante d'un nationaliste plus de droite ou centre avec un discours plus de gauche, libéral. Ça va être la jonction gagnante chez les francophones qui va permettre l'arrivée du Parti québécois. Entre autres dans Rosemont, ils vont prendre le pouvoir, ça va toujours rester un château fort depuis. Et après ça, le RCM qui va naître de ça. Au sein du RCM, dans les années 80, vont naître les corporations de développement économique, des prises en charge locales du développement économique. Et au sein des CEDEC, entre autres dans le cas de Rosemont, on va voir apparaître la Société de développement Angus, qui va aller... chercher les terrains et s'organiser pour les obtenir. Et ça va être de haute lutte. Il va falloir évidemment que les gens de la Société de développement Angus convainquent les autorités municipales. Mais il y avait eu des combats auparavant, dans les années 70, quand le Canadien Pacifique avait voulu, à l'est de la rue Saint-Michel, installer
un centre d'achat.
Un centre d'achat, c'est ça, un centre commercial. Merci, Jean-Marc. Et les gens s'étaient rebellés. À l'époque, c'était André Lavallée qui s'occupait de l'association des locataires. Et à force de manifestations d'occupation de bureaux de ministres, ils avaient réussi à forcer une consultation pour que les gens indiquent quel usage on voulait faire du fonds de terrain. C'est la première fois que ça se faisait au Québec, ça, je crois bien, là. En dehors des instances normales des élus, là, que la population dise « nous, on veut du logement ou telle affaire sur le terrain », c'était quand même nouveau. Et ils ont gagné leur point, donc, du logement, beaucoup de logements coopératifs, d'ailleurs, qui est installé là. Donc, il y avait un premier geste qui avait été posé de ce type-là, d'intervention d'une population dans un quartier qui impose à une grande entreprise et aux institutions publiques l'usage qu'on va faire du terrain. Quand Angus va arriver, évidemment, on va prendre image de ce qui s'est passé là, d'une part. Et Lavallée, qui était à l'époque le responsable du comité de locataires, est devenu maire de l'arrondissement. À l'époque, c'était pas l'arrondissement. Il était conseiller municipal, membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme. Alors, quand les gens de la Société de développement Angus vont proposer un changement au zonage ou une interdiction de changement au zonage s'ils n'obtiennent pas la moitié du terrain pour faire du développement économique, bien sûr que la Ville de Montréal, avec le RCM, va donner raison à ces gens-là, leur permettre de le faire. C'est ce qui va expliquer l'émergence de la Société de développement Angus. Bon, ceci étant dit, il y a eu de nombreuses autres aventures dont on n'aura pas la possibilité ce soir de vous raconter. Vous l'aurez dans le livre. Mais à partir de ce moment-là, on est donc après la fermeture 1992-1996, la folle aventure de la Société de développement Angus va commencer et la prise en charge de ce terrain-là. Mais on peut dire que c'est vraiment un très long processus, là, de au moins de 1900 jusqu'à 1970, je dirais, où il a fallu qu'il y ait une inversion des idéologies puis des approches politiques pour permettre même l'acceptabilité d'un projet comme celui-là et de la proposition que mettait de l'avant la Société de développement Angus. Alors, là, j'ai fait la tournée, on a regardé malheureusement rapidement tout ça. S'il y a des questions dans la salle, je suis disponible. Sinon, Jean-Marc, si tu as des commentaires à faire, allons-y, ou si tu penses qu'il y a des choses qui devraient être...
Oui, bien peut-être on peut regarder la période plus récente. Est-ce que la documentation relativement au travail qui s'est fait dans les années 70, est-ce que il y a des archives qui ont été conservées dans le milieu communautaire pour bien rendre compte de tout ce travail qui est quand même une lutte là, qui se fait entre les organisations communautaires et la société du Canadien Pacifique qui, bon, pensait facilement pouvoir faire ce qu'elle voulait avec ses terrains. Bon, c'est un peu toujours ce que les propriétaires pensent qu'ils peuvent faire. Et là, tout à coup, ils sont confrontés à une résistance. Alors, est-ce que cette période-là, dans le livre, elle est bien documentée? Est-ce qu'on peut bien saisir la dynamique qu'il y a eu?
Je pense qu'on peut bien saisir la dynamique, mais là, ça permet de faire, effectivement, une mise au point importante. Je dirais que jusqu'en 1992, là, on peut avoir accès à des fonds d'archives, donc des pièces de première main, et on peut les comparer. Il y a même des gens qui ont vécu, donc on peut amener les gens à comparer les versions. À partir de la SDA 1992 à 99, malheureusement, on est limité pour le moment à des récits. Donc, les gens nous comptent comment ils ont vécu ça, comment ça s'est passé, et les médias. Les archives écrites, évidemment, ne sont pas disponibles parce que, tout simplement, elles sont pour eux d'actualité, d'usage. Elles ne sont pas encore archivées. Quelques pièces sont archivées à l'Université du Québec, aux archives de l'Université du Québec, qui se spécialisent dans des fonds d'archives plutôt à gauche, là. Mais les gens n'ont pas le réflexe. Ils ne voient pas dans ce qu'ils ont fait dans les années 70 un caractère historique, là. Peut-être que dans quelques années, là, il y a des gens qui vont livrer des caisses de documents. Mais pour le moment, ça n'apparaît pas pour eux comme étant des éléments historiques. Donc, comme je signale dans le bouquin, c'est de l'ordre du récit pour la dernière partie. C'est honnête, là. On a rencontré beaucoup de gens, on a interrogé beaucoup de gens, mais on rend compte de ce qu'ils nous disent. On ne peut pas vérifier, comme par exemple, je prends l'exemple du Valentine, le char d'assaut. 39-45, la rumeur populaire, encore aujourd'hui, les gens disent « Ah, c'est un char d'assaut extraordinaire, on a fait un job fantastique, puis ça a sauvé la Russie. » Les rapports qui nous sont disponibles à l'intérieur de l'armée canadienne depuis quelques années indiquent que non, il était mal construit. Il se mettait à 10 pour faire un job qu'une personne pouvait faire, que s'ils attendaient après Angus pour gagner la guerre, ça prendrait au minimum 10 ans. C'était vraiment pas le même discours, là. Et même chose avec les obus pendant la guerre 14-18. Alors là, on est capable d'avoir d'autres points de vue, parce qu'évidemment, les gens étant décédés, ils ont moins de choses à protéger. Évidemment, ils sont pas là pour le faire, tout simplement. Et on est capable de comparer, puis d'apporter un point de vue plus... documenté.
Nuancé, oui.
Ouais.
Et est-ce que les archives de la compagnie comme telle du Canadien Pacifique étaient disponibles, facilement accessibles?
Oui et non. Ils ont des archives fabuleuses, mais c'est comme des parties de pêche. On arrive au comptoir, et il faut savoir exactement ce qu'on cherche. Et là, il faut compter sur la perspicacité ou la vaillance de la personne qui est au bord du comptoir pour le trouver. On n'a pas de cahier qui nous indique ce qu'il possède au complet. À l'évidence, la documentation qui a été archivée, parce qu'il y en a une partie qui sont aux archives canadiennes, les lettres, entre autres, de Shaughnessy et Van Horn, à l'évidence, ça a été expurgé. Il y a assez peu de choses contentieuses. Ça nous donne beaucoup d'informations là, sur l'époque, tout ça, mais il n'y a rien là-dedans là, qui permet de les attacher à des transactions qui seraient plutôt douteuses. Et Dieu sait qu'il y en a eu quelques-unes quand même. La documentation là. Donc, le Canadien Pacifique... Évidemment, un fonds d'archives important en photo parce qu'ils avaient un photographe à temps plein, puis un wagon qui était équipé pour développer les photos. Donc, grâce à ça, on a beaucoup, beaucoup de matériel dans les années 30, 40, 20, extrêmement intéressant, qu'on a utilisé abondamment dans le volume. Mais pour les archives, on était confronté à ça. Il y a du matériel, là, mais il faut vraiment savoir que telle chose existe, puis le demander formellement.
Et autour de la question de l'économie sociale, est-ce que dans la période avant, donc, 1970-1980, on voit bien évidemment une caisse d'économie Angus qui se met sur pied, mais est-ce qu'il y a eu d'autres organisations autour d'autres thématiques coopératives?
Oui, les syndicats, le syndicat des machinistes, eux avaient mis sur pied un réseau de caisses ou de banques, aux États-Unis, ça s'appelait des banques. Sur le modèle des caisses d'économie. Il y en avait au Canada aussi de ça, en 1912. La crise de 29 les a emportés, là. En 1912, les francs-maçons à Montréal, avec les syndicats, avaient mis un premier magasin coopératif sur pied. Donc, ce genre de pratique-là existait déjà. Ils avaient mis le pied dans le domaine économique. Mais évidemment, il y avait déjà la compétition de Desjardins qui ne laissait pas faire ces affaires-là. Desjardins avait une organisation basée sur les paroisses et pour eux, des organisations à l'intérieur des usines, ça venait briser leur
type d'organisation.
Oui. Donc, ils n'étaient pas vraiment portés là-dessus. Et si tu voulais faire une caisse d'économie, il fallait que tu fasses affaire avec des institutions anglophones. Ça a été un problème d'ailleurs chez Angus, l'accès aux services francophones. Pour les services de fédération qu'on appelle les assurances sur les prêts, tout ça, pas sur les prêts, sur les dépôts. C'est pour ça qu'ils ont dû créer une fédération québécoise avec M. l'ancien président des caisses populaires qui a fait la fusion de tout ce monde-là, Bélan.
Donc, la première caisse d'économie n'était pas liée au mouvement Desjardins?
Non, pas du tout. C'était des coopératives indépendantes qui se regroupaient pour s'offrir des services. Et puis, quand on y pense, c'était complètement fou. Les gens recevaient, deux jours avant la paye, un bordereau qui indiquait qu'est-ce qu'ils allaient recevoir comme paye cette semaine-là. Mm. C'était transmis à un agent qui représentait, je ne sais pas, une centaine d'employés. Il allait porter ça au gérant bénévole de la caisse. Dans ces deux jours-là, les gens remplissaient un bordereau puis disaient « Sur ma paye, j'en laisse tant dans mon compte, j'ai besoin de tant de cash. » Dans les deux jours, deux nuits, les bénévoles et leurs femmes se réunissaient et faisaient des petits paquets dans du papier craft, là, emballé avec les noms de chacun. Et le jeudi midi, à midi pile, puis là, il fallait pas perdre de temps, là, les délégués venaient, il y en avait peut-être une trentaine, une quarantaine, ils venaient chercher les paquets puis allaient redistribuer ça à tout le monde. Ils ont fait ça pendant 20 ans.
Oh là là!
Alors, aujourd'hui, ce serait inimaginable, là. Mais c'est comme ça qu'ils ont réussi à accaparer le marché, entre guillemets, mm-hmm. là, puis à structurer la caisse.
Et autour des terrains Angus, est-ce qu'il y a eu... parce que dans les années 40, se mettent sur pied des coopératives de logement, il y a donc un petit essor au niveau coopératif. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose où le seul grand projet à peu près dans Rosemont, c'est la Cité-Jardin?
Cité-Jardin... Pour le vieux Rosemont, là, je n'ai pas vu d'autres projets de ce type-là. Il faut voir aussi là, un peu aussi le portrait géographique de l'endroit. Là,
oui,
là,
oui. Hein?
Jusqu'en 1930...
Peut-être tu peux le rappeler un petit peu, ça, parce que c'est dur à imaginer. Là.
Oui, c'est ça. 1904, donc, quand les ateliers sont construits, là, on est dans Hochelaga, qui est une ville qui est à l'extrémité... on est dans le quartier Hochelaga de Montréal, donc c'est le territoire de Montréal, dans l'est, à la limite de Maisonneuve, qui est une cité indépendante. Mm-hmm. Et en haut de la rue Rachel actuelle, là, c'est la campagne, là, c'est la rase campagne. Il y a des cultivateurs, point. Partout, il y a des carrières importantes.
Mm-hmm. Les carrières servaient principalement...
Tous les édifices du centre-ville de Montréal, là, en pierre. Là, cherchez pas, là, ça vient de cette région-là. Donc, on les appelait les jarrets noirs, les gens qui travaillaient là, qui préparaient la pierre pour les constructions au centre-ville. Donc, il y a eu des énormes trous qui empêchaient les rues. Saint-Joseph, là, il y avait un énorme trou en plein milieu avant. La rue n'existait pas là, mais c'était pas possible de la passer. Il y avait une carrière. Alors, il y avait des carrières comme ça dans lesquelles les gens allaient chercher de la glace l'hiver, mm-hmm. parce que c'était gratuit, mais avec des risques pour la santé importants. Il y avait de l'autre côté de la voie ferrée, là où est le Journal de Montréal maintenant, un abattoir très important. Et c'était là que tout le bétail que le CP amenait, ça appartenait au CP, ça, était amené là. Donc, on n'était pas loin de la chope, on n'était pas loin du port, et on pouvait garder le bétail là. Ça explique la présence constante des chats au sein des ateliers Angus. Hein. Il y a toujours eu des centaines de chats dans les ateliers. C'était pour s'occuper des rats qui venaient d'abattoirs qu'il y avait de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'était pas très intéressant. Vous aviez l'hôpital des Picoteux, de l'autre côté de la rue Rachel, l'hôpital civique, l'hôpital Préfontaine, maintenant, qu'on appelle, mais là, qui est fermé. Et donc, Picoteux, c'est parce que les gens étaient en quarantaine, puis on les mettait à l'extrémité de la ville, là. Et un petit peu plus à l'est, mais toujours dans Hochelaga, il y avait des entreprises qui utilisaient les quartillages, les eaux pour faire de la colle. Ça sentait pas très bon. Mm-hmm. Alors, c'était vraiment le coin pestiféré de Montréal, et ça a été comme ça jusque dans les années 30, avant que les carrières soient remplies, on fasse des parcs avec, parce que tous les parcs de Rosemont sont des anciennes carrières. Ce qui explique d'ailleurs que parfois, il y a des trous qui se créent. C'est parce qu'il y a de la compaction sous le sol, puis bon, il manque de terre, là. Non, c'était pas un endroit qui avait une réputation, disons, très relevée. Donc, il n'y avait pas non plus une tentative d'aller habiter là très, très marquée. Mm-hmm. Et le premier lieu d'habitation qui va être développé, ça va être un petit peu plus haut, dans Rosemont comme tel, le vieux Rosemont, par M. Dandurand et compagnie. Mais nos recherches ont permis de mettre à jour quelque chose de très particulier que l'historiographie québécoise n'a pas signalé. Hochelaga, là, de la rue Notre-Dame jusqu'à la rue Saint-Joseph, de la rue Bourbonnière jusqu'à Moreau, ça vous donne une bonne pièce de ville, ça, là. Mm-hmm. En 1890, tous ces terrains-là, sauf ceux qui étaient déjà habités, qui en avaient vraiment marginal, ça, Ils ont tous été achetés par une équipe d'hommes d'affaires liés au Canadien Pacifique. C'est dantesque. Quand on regarde ça, là, il suffit de s'imaginer à peu près le nombre de lots dont on parle, mais c'était déjà loti. Et ça, ça a été vendu après ça par Dandurand aussi. Et les transactions sont très intéressantes parce qu'on voit, par exemple, le ministre qu'on appelait à l'époque des canaux et des transports et du train à Ottawa, qui a été parti à la transaction, mais uniquement 30 jours. Et le tout Montréal est dans cette transaction-là. Et ça, les historiens ont
occulté, c'est un peu
ça. Ils ont focalisé sur Rosemont.
Okay,
oui. En se disant, le CP a acheté Rosemont. C'est Rosemont, ça, c'est une petite pièce là, comparativement au Chelaga. Oui.
Et puis la Cité-Jardin apparaît quand, elle? Qu'est-ce qui...
Cité-Jardin, c'est pendant la guerre.
Voilà.
Il y a une pénurie de logements, parce qu'il y a des gens qui viennent travailler en ville, évidemment, dans les usines d'armement.
Oui, parce qu'à l'époque, c'est énorme, là, le nombre d'employés qu'on retrouve sur les terrains.
Bien, entre autres, Angus, il y a 12 000 personnes qui travaillent là. Alors, ça fait beaucoup de monde, mais il n'y a pas juste Angus. Il y a plein de... On produit de l'armement dans les ateliers des tramways de Montréal. Il y en a vraiment partout.
Alors, donc, il y a vraiment une conversion d'une industrie de guerre.
Là, tout à fait. Les salaires sont bons aussi, les conditions de travail sont intéressantes. Ça permet aux femmes d'entrer au travail aussi. Là,
donc, un boom économique.
Oui, tout à fait. Et, on est en 39-45, 14-18, c'est les obus. 39-45, c'est les chars d'assaut, mais il y a 12 000 hommes qui travaillent à ce moment-là, hommes et femmes. Donc, il y a pénurie de logements et c'est mis à partie, ça, par les communistes au Québec. Qui font des occupations d'édifices abandonnés pour les revendiquer et que les gens puissent en prendre possession. Alors là, il y a une espèce de panique là, qui s'installe. Et il y a toute une théorie qui est tout à fait loufoque, là, dont j'en ai mis des extraits les plus parlants là, dans la documentation émise par l'Église catholique, là, qui, comme on dit, le cabaret est le pourvoyeur de... Du communiste, oui, c'est ça. Alors, il y a une espèce d'idée qui se fait entre les logements crasseux, l'alcoolisme et le communisme, et que donc, si on donnait aux femmes l'occasion de faire du ménage dans la maison, c'est vraiment ça, on compte sur les femmes pour le faire, et d'avoir des logements qui ont de l'allure, ben les hommes vont arrêter dans la taverne, donc ils ne seront plus communistes. Il y a une espèce de logique qui est présentée comme ça. Et c'est dans cet esprit-là qu'ils décident de faire le quartier, pour essayer de divertir les gens de
la débauche.
De la débauche et du communisme, surtout. Mais là, ils vont rencontrer un certain nombre de problèmes. Les approvisionnements sont difficiles. Une boîte de clous, tu te la fais voler le temps de le dire. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Le coût des édifices augmente rapidement. Les caisses populaires ne veulent pas financer parce qu'elles craignent des bombardements sur Montréal. Il ne fallait pas être très... très bon calculateur, là, mais...
C'est un peu loin, mais bon.
Oui, alors donc ça va être les jésuites qui vont financer ça avec la Sun Life, qui vont permettre ça. Mais ça va sauter là, avec des conflits internes, une incapacité de livrer aux gens. Ils voulaient faire toutes des petites maisons pareilles, des petits bungalows, et finalement, ils sont obligés de s'adapter à la demande du nouveau client qu'il y avait, donc le professionnel, qui lui voulait un petit chalet suisse, qui autre voulait un rococo, un autre... Et là, les coûts ont explosé. Les gens, eux, c'était des consommateurs. Là, on voit un changement. Là. Ce ne sont plus des croisés qui veulent combattre le communisme, c'est des consommateurs. Et ils n'accepteront pas le comportement de ces espèces de faux curés. Et la coopérative va imploser à toute fin utile.
Bien, voilà. Je pense qu'on peut conclure sur cette dernière sur ces belles paroles sur la Cité-Jardin et évidemment sur ce grand projet Angus qui devrait peut-être nous permettre un autre livre éventuellement avoir une suite plus moderne donc dans la période actuelle avec tous les soubresauts que Montréal et les territoires en développement connaissent évidemment. Alors merci beaucoup Gaétan, ce fut très agréable. Merci au public et à la prochaine.